dans la chronique des matières premières et les Trumpistes à l'assaut de la diversité dans Grand Reportage. Et tout de suite les sports avec Victor Missistrano. Bonjour Victor.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une, le football et la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup hier soir.
Il a fait la moitié du chemin dans sa demi-finale contre Arsenal. Victoire à l'Emirates de Londres 1-0. Une victoire que vous avez pu vivre sur RFI et il ne fallait pas être en retard.
Kvaratskhelia qui va rentrer dans la surface sur le côté gauche, l'extérieur, la frappe. Oh, le but. Le but du Paris Saint-Germain. Oh, le déboulé là de Kvaratskhelia.
Moins de 4 minutes de jeu et un déboulé de Kvaratskhelia pour trouver l'homme providentiel Ousmane Dembélé, buteur d'une frappe pied gauche poteau rentrant. Paris a souffert pour conserver cet avantage précieux et remporter sa première victoire contre Arsenal en 6 confrontations. Un succès qu'il doit à sa force collective selon Nuno Mendes et il faudra garder cette cohésion au match retour selon le défenseur portugais.
C'est une grande victoire, mais on sait qu'il y a encore un autre match à jouer à Paris, donc faut rester concentré, faut rester humble et continuer à chercher la victoire. Nous, on sait ce qu'on doit faire, on sait la qualité de notre joueur, on sait la qualité de notre coach, on est fiers de nous, on est ensemble, on est comme une famille dans le terrain et je pense que ça a la clé pour arriver aujourd'hui.
Nuno Mendes au micro de Cédric De Oliveira, seconde manche mercredi prochain au Parc des Princes. En attendant, Arnaud, ce soir, c'est l'autre demi-finale aller, elle oppose le FC Barcelone à l'Inter Milan à 19h, temps universel.
On passe au cyclisme, le Tour du Bénin se poursuit.
Et hier, le Marocain Alou Sen Sabahi s'est adjugé la deuxième étape entre Parakou et Save, devant le Sud-Africain Reinhard Jansen van Rensburg qui conserve le maillot jaune dans ce Tour. On le rappelle, c'est la seule course d'Afrique de l'Ouest au calendrier de l'Union Cycliste Internationale. Un Tour du Bénin écologique. Les 80 coureurs sont sensibilisés par l'organisation qui ne veut pas laisser de déchets sur sa route, comme on va l'entendre dans ce reportage. Reportage d'Olivier Pron.
Moi, je m'appelle Ketounou David. Nous sommes la commission écologie. On ramasse les bidons vides qu'on a jetés, les sachets, les débris, tous les, même les bananes, les trucs là comme ça. Tout ce qu'on voit comme déchets, on débarrasse ça du terrain pour que tout l'endroit là soit propre.
Comme David, ils sont trois chaque jour à ramasser les déchets de la caravane. Ils sont la commission écologie du Tour du Bénin et leur compatriote coureur Glorad Saïzenou adhère et n'en est pas peu fier.
Les plastiques et autres, on n'aimerait pas voir ça sur le Tour. La propriété est très importante parce qu'on respecte notre pays et c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait la valeur du Tour aussi. Il est interdit de jeter les bidons par terre et autres. Soit tu remets ça au directeur sportif, soit lors de la zone de ravitaillement, on peut jeter ça.
Même son de cloche chez le voisin togolais Nyuleleng Chalem, qui fait les efforts demandés et souhaite que l'initiative fasse des émules.
Moi, je trouve que c'est très bon parce que la propriété aussi, il faut la propriété. Le Tour du Bénin, c'est des choses qu'il faut copier et faire dans les autres pays aussi.
C'est très important.
Oui, c'est très 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 important.
Et chaque jour, ce sont ainsi de 30 à 40 kilos de déchets qui sont remis aux localités accueillant les étapes. On n'a rien sans rien. Olivier Promboïcon, RFI.
Et on termine par du basket, Victor, d'abord aux États-Unis.
Oui, en NBA, Indiana et le Camerounais Pascal Siakam rejoignent les demi-finales de conférence des playoffs. Quatrième victoire contre Milwaukee, 119 à 118, c'était serré après prolongation. Prochain adversaire des Pacers, les Cavs de Cleveland. Et puis la balle et la conférence Sahara qui se poursuit au Sénégal. Une victoire de la SC Dakar hier contre le Petro de Luanda, tenant du titre 64 à 63. Les Dakarois qui partagent la tête avec l'US Monastir, tombeuse des Cap Verdien de Creole Star, 88 à 72.
Merci Victor Missistrano et bonne journée à vous. RFI, nous sommes le 30 avril 2025, à la une les 100 jours de Donald Trump. Le président américain très content de lui, il parle de réussite et promet de ne pas s'arrêter là. La stratégie du chaos, 100 jours de Trump, journée spéciale sur RFI. Andréane Ménard et ses invités dans 20 minutes pour une édition spéciale de 2 heures. Puis ce sera vos réactions d'un appel sur l'actualité. Priorité santé autour des conséquences sur la santé mondiale. C'est pas du vent cet après-midi, mais aussi toutes nos tranches d'informations tout au long de la journée. Les États-Unis qui se montrent par ailleurs de plus en plus agacés par la tournure des discussions sur la guerre en Ukraine. Washington exhorte Moscou et Kiev à faire des propositions concrètes pour mettre fin à la guerre, faute de quoi ils menacent de stopper leur médiation. 100 jours après ce retour de Trump à la Maison-Blanche, où en est la politique africaine des États-Unis? Est-ce que le président américain s'intéresse vraiment au continent? Les réponses de notre invité Afrique ce matin. Jeffrey Hawkins, il a été ambassadeur des États-Unis en Centrafrique. Aujourd'hui, il est chercheur associé à l'IRIS et enseigne à Sciences Po Paris. Il répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Jeffrey Hawkins, bonjour.
Bonjour.
Il y a 100 jours, vous nous disiez que Donald Trump risquait de se désintéresser totalement du continent africain. Aujourd'hui, est-ce que vos prédictions se réalisent ?
C'est déjà un peu tôt pour dire, mais des signes sont toujours, à mon sens, aussi mauvais qu'avant. D'abord, il y a eu la destruction de la coopération américaine, donc du USAID, donc un outil qui était extrêmement important en Afrique, un outil pour les États-Unis, pour la diplomatie américaine. En même temps, il y a eu d'autres programmes aussi démolis par l'administration Trump. Et on parle aussi de réformes au sein du Département d'État. Pour l'instant, on n'a pas trop de détails, mais on parle certainement de fermeture de quelques ambassades américaines en Afrique. Et aussi, on a parlé d'un mémorandum qui circulait au sein du département où on parlait même d'abolir le bureau pour l'Afrique au sein du département d'État. Ça, je ne sais pas si ça va arriver, mais ça, c'est mauvais signe.
Alors, il y a une exception dans tout ce tableau, c'est la région des Grands Lacs, puisque samedi dernier, Donald Trump a déclaré « Nous avons, je crois, une excellente nouvelle à venir avec le Rwanda et le Congo. Je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo.
» Oui, je pense que l'intérêt de Donald Trump pour les matières premières et notamment les minéraux de terres rares est incontestable. Mais je pense qu'il faut, malgré tout le bruit qu'on a fait et malgré un certain investissement ces derniers temps par Massad Boulos, qui est le représentant de Trump et pour le Moyen-Orient et pour l'Afrique, qui a un peu fait le déplacement sur le continent récemment, et puis cette annonce de déclaration de principe. Oui, il y a un intérêt et il y a des discussions, mais je pense qu'il faut rester très prudent parce que quand on sait le conflit au Congo dans les Grands Lacs, c'est très compliqué. Donc, entre faire des déclarations de principe, entre faire un peu le tour des capitales et arriver vraiment à une paix durable, il y a quand même pas mal de pas à faire.
Il y a juste 2 ans, c'était en mars 2023, l'opposant rwandais Paul Rusesa Baguina a été libéré par les autorités rwandaises sous pression américaine. Est-ce que le président des États-Unis, quel qu'il soit, n'est pas le seul dans le monde à pouvoir faire pression sur Paul Kagame?
Bon, ça, je sais pas. Entre faire libérer une seule personne, et notamment quelqu'un qui est un tout petit peu connu en Occident, et demander un changement structurel de sa façon de gérer sa politique étrangère vis-à-vis de Congo, c'est quand même un écart assez important.
Alors, dans cette annonce de samedi dernier, Donald Trump a ajouté « On va investir plus de 6 milliards de dollars dans le corridor angolais de Lobito, qui permettra essentiellement de transporter de magnifiques minerais depuis le Congo, l'Angola et plusieurs autres pays. » N'est-on pas dans ce cas de figure, dans la continuité de la politique de Joe Biden, qui était allé en Angola, c'était en décembre
oui,
dernier.
Et justement, ce projet de corridor de Lobito, ça date pas de Trump, hein. C'est une initiative qui est là depuis quelque temps. Mais se concentrer sur 1 ou 2 projets simplement pour avoir accès à des matières premières, ça ne constitue pas une politique globale.
Mais comme il est en difficulté sur Gaza et sur l'Ukraine, est-ce que Donald Trump ne se penche pas sur les Grands Lacs pour trouver enfin un succès diplomatique à mettre à son actif?
Je dois dire que je me suis posé la question aussi, mais je pense que Donald Trump, comme ses prédécesseurs, va trouver que les conflits dans les Grands Lacs, c'est aussi épineux que le Gaza ou l'Ukraine et tout ça, c'est très compliqué. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment un engagement diplomatique de longue haleine, ce qui ne caractérise pas, en général, la diplomatie trumpienne.
Et vous ne faites pas confiance actuellement à messieurs Marco Rubio et Massad Boulos pour trouver la solution, hein?
Non, franchement, pour l'instant, une déclaration de principe, une discussion sur l'accès des compagnies minières américaines qui sont de moins en moins présentes, d'ailleurs, sur le sol congolais. Entre ça et vraiment mener à bien tout un processus de paix qui implique énormément d'acteurs domestiques et internationaux, ça c'est pas pour demain. Donc si Donald Trump cherche une petite victoire diplomatique pour briguer à un prix Nobel, je pense qu'il faudrait qu'il regarde ailleurs.
Jeffrey Hawkins, merci.
L'ancien ambassadeur des États-Unis en Centrafrique, Jeffrey Hawkins avec Christophe Boisbouvier. Et on évoque à présent la politique pétrolière de Donald Trump avec Marie-Pierre Olfan. Bonjour.
Bonjour.
Le président américain veut produire plus de pétrole pour faire baisser les prix à la pompe. Ça se résume en un slogan, drill baby drill. Les prix du brut ont chuté à leur plus bas niveau en 4 ans. Mais en voulant satisfaire ses électeurs, est-ce que Donald Trump n'est pas en train de se mettre à dos l'industrie pétrolière?
Alors oui et non, le président américain est devenu l'allié des majors qui sont implantés aux États-Unis dans la mesure où il encourage la production, mais la baisse des prix qu'il alimente avec cette politique pèse sur leurs résultats financiers. L'entreprise britannique BP, déjà en difficulté avant la nouvelle baisse des prix, vient d'annoncer un bénéfice divisé par 3 au premier trimestre parmi les raisons invoquées, la volatilité des marchés. Chevron, ExxonMobil, Shell ou encore Total Energy traversent elles aussi une zone de turbulence économique et pourraient, selon plusieurs analystes, être tentées de repenser leurs investissements.
Oui, ceux qui souffrent le plus des prix bas aux États-Unis, ce sont les opérateurs qui exploitent le pétrole de schiste.
Oui, ce pétrole extrait des couches de schiste du sous-sol américain a un coût de production plus élevé en raison des technologies utilisées. La baisse des recettes entame donc la rentabilité des opérateurs qui exploitent ce brut. Pour réduire leurs dépenses, plusieurs d'entre eux ont ralenti leur activité de forage. Si les prix ne se redressent pas dans les prochains mois et s'ils passent sous la barre des 60 voire des 50 dollars le baril, un avenir dévastateur se prépare pour le secteur du schiste, préviennent déjà des producteurs.
Bon, et puis l'ironie, c'est qu'en voulant faire baisser les prix, Donald Trump rend service à la Chine, autrement dit à son premier ennemi sur le front commercial.
Oui, c'est tout le paradoxe de cette situation. Il faut avoir en tête que la Chine est le premier importateur mondial de brut et qu'elle refait ses stocks dès qu'ils sont bas et dès que les prix sont favorables, qu'importe presque le niveau de la demande, la Chine achète. Au mois de mars, ses importations ont bondi et s'accélèrent encore en avril. En ce moment, le pays importe environ 11 millions de barils par jour. Cela fait 18 mois qu'il n'a pas tenu un tel rythme. Certaines raffineries chinoises auraient même repoussé leur maintenance annuelle pour continuer à produire de l'essence, du diesel et du carburant pour l'aviation.
Merci Marie-Pierre Olfan. On retrouve votre chronique des matières premières en ligne sur RFI. RFI.fr. Il y a 100 jours, Donald Trump redevenait donc président des États-Unis et notre dernier grand reportage consacré à ce bouleversement mondial est un road trip, un voyage à travers 4 États de l'Est américain, Alabama, Indiana, Géorgie, Kentucky. On va découvrir la marche arrière radicale enclenchée en termes de diversité. À coup de décrets et de déclarations, la nouvelle administration renvoie à leurs difficultés d'intégration les personnes de couleur, les femmes, les handicapés, les LGBT. Les républicains au pouvoir bannissent la fameuse politique du DEI. DEI pour diversité, équité, inclusion. Viser la fonction publique, les universités et les entreprises. Les Trumpistes à l'assaut de la diversité historique de l'Amérique. C'est un grand reportage d'Edouard Maille.
Dans le campus de l'université Purdue-Fort Wayne, dans l'Indiana, l'anthropologue Noor O'Neill accueille sa douzaine d'étudiants dans sa petite salle de classe. L'année dernière, l'Indiana a passé une loi qui, selon l'enseignante, met en péril la liberté académique. Officiellement, la loi vise à encourager la pluralité d'opinion, mais pour Noor O'Neill, il s'agit de limiter les enseignements jugés trop à gauche, avec la possibilité pour les élèves ou les parents de contester les enseignements.
The Senate Bill 202 passed last year. Gives them the power.
La loi votée l'année dernière donne aux élèves la possibilité de se plaindre. Et ces plaintes seraient inscrites dans mon dossier et pourraient être prises en compte lors de mon évaluation personnelle. Et s'il y a beaucoup de plaintes, je pourrais être licenciée. Donc si j'arrive en classe et je commence à dire que les mesures DEI sont une bonne chose, ou que les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes, ou que les droits des personnes LGBTQ sont importants, ou qu'on veut des mesures de diversité, l'équité et l'inclusion, les élèves pourraient se plaindre, estimant que je serais en train de faire honte aux personnes blanches, ou aux personnes hétéros, ou aux hommes. Et tout cela a suscité beaucoup de peur chez ceux qui enseignent sur des questions liées à la diversité, les études sur les femmes, sur la couleur de la peau ou sur l'histoire de l'esclavage dans notre pays.
Mais ces pratiques de diversité sont variables et ne sont pas seulement gouvernement remis en question par les républicains. Matt Burgess est professeur d'économie à l'université du Wyoming. Dans son ancienne université, avec un collègue, il a mis fin à une pratique dans son département qui demandait une déclaration de diversité, équité et inclusion pour les embauches, un document rédigé où le candidat met en avant son engagement pour ses programmes, mais aussi son expérience personnelle.
The concern that I and one of my colleagues had about that practice was that...
Avec un collègue, on était inquiet que cette pratique rende possible la discrimination d'une personne en fonction de ses convictions politiques, ce qui est interdit aux États-Unis par le Premier Amendement, et qui rendrait aussi possible des discriminations par rapport à la couleur de la peau et du genre, ce qui est aussi illégal aux États-Unis. Donc on voulait y mettre fin.
Les Trumpistes à l'assaut de la diversité historique de l'Amérique, c'est un grand reportage d'Edouard Maille. Vous en écoutez la version intégrale sur RFI à 19h40, temps universel, 21h40, heure de Paris. C'est aussi en podcast sur le site de RFI ou l'application RFI Pure Radio. Vous restez avec nous parce que dans 10 minutes maintenant commence notre édition spéciale. 100 jours de choc et d'effroi après l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Andréane Mélard et ses invités.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a multiplié les déclarations fracassantes et les mesures choc. Il s'est mis à dos une partie de l'Amérique et le monde entier. À l'occasion des 100 premiers jours de son second mandat, nous dressons le bilan et nous répondons à vos questions.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Ce mercredi sur RFI.
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
100 jours après son arrivée au pouvoir, Donald Trump a profondément bouleversé l'Europe. La parole populiste est plus décomplexée, les enjeux de sécurité se font plus urgents et la pression sur l'Ukraine pousse les Européens à s'unir sur le front diplomatique.
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 17h10 TU sur RFI.